Première question.
Oui, mais vous ne l'expliquez pas à la résurrection, parce que ça n'a rien à voir avec l'espérance.
On répond par
comme vous voulez.
Ah. Ça marche toujours. Alors, tout simplement, je vous dirais que la résurrection, nul n'en sait rien, nul ne l'a vu. Et nul n'est venu pour nous en parler. Et c'est là que j'en prends. Nous sommes dans le domaine du non-savoir. Alors, je veux bien vous expliquer qu'est-ce que ce sera que la résurrection et qu'est-ce que sera la vie dans le paradis à venir. Ça ne peut être que du mauvais roman. Ça, c'est du mauvais roman.
Alors, on espère quoi? Justement, on espère qu'on ne sait pas.
Alors, qu'est-ce qu'on espère? C'est là qu'il faut reprendre. Alors, tiens, j'ai pas amené mon texte, je vous cite de mémoire. C'est là que je reprendrai la formule de Paul. Maintenant, je vois comme à travers un miroir brouillé. Et à ce moment-là, je serai. Attendez, par la formule,
c'est ça.
Il y a le face à face, et puis je connaîtrai comme je suis connu, sauf erreur. Hein. Et à ce moment-là, qu'est-ce que c'est? Ce n'est que comment fait Paul? Ben, il prend une image. Il prend l'image du miroir brouillé ou de la vitre qui est brouillée, et à ce moment-là, ce qui est très important, c'est qu'au fond, il y a la formule du face-à-face. C'est ce que ne cesse de redemander tout au long de la tradition biblique, ce que ne cesse de demander Job et quantité de prophètes et Moïse, montre ta face, le psalmiste, etc. Je ne peux donc que le dire d'une manière détournée par une image, mais je n'en sais rien.
Mais alors, faut qu'on affirme.
La croyance, c'est pas ça.
Alors pourquoi est-ce que cela est affirmé? Bon, alors, il faudrait alors maintenant revenir, si vous voulez, reprendre un commentaire de nombre de textes de l'Évangile, puisque c'est précisément ce qui nous est dit qui sera. Cela sera. Seulement les hommes veulent voir et comprendre et toucher maintenant. Alors à ce moment-là, vous avez, Dieu sait si ça va faire des motifs dans la peinture. D'ailleurs, ils peignent plus volontiers l'enfer que le paradis. Le mal est toujours plus facile à représenter. Mais vous avez cette envie pour les hommes de représenter, et nous sommes dans le non-représentable. Alors, c'est pour ça, par exemple, alors là, si vous voyez, on pourrait reprendre. Comment on va essayer de le comprendre? On peut prendre, si vous voulez, l'exemple de la peinture. Dieu sait si dans la tradition d'Occident, il y en a des quantités. Et à un moment donné, il nous faudrait passer à la musique. Parce que la musique ne représente rien, elle laisse entendre. Et à ce moment-là, c'est effectivement en écoutant tel passage de Bach, tenez, si vous voulez, je vous dirais, tel passage des concertos pour violoncelle seul, c'est à ce moment-là que j'entrevois. Mais Bach ne me fait pas de dessin. Alors, c'est là, si vous voulez, qu'on est. C'est pour ça que j'insistais tellement comment nous sommes liés. Nous sommes liés, notre destin d'homme est lié à un mystère. Et nous voudrions connaître le après. Bah, de la même manière que connaître demain le après-demain, pour ça, bah, vous allez chez les cartomanciennes. Enfin, si vous avez de l'argent à perdre. Mais on va essayer d'anticiper.
Pourquoi on dit destin d'homme et de femme?
Pardon. Alors pour cette raison simple que le français ce n'est pas comme le latin, ce n'est pas comme l'allemand. Si je parlais en latin, je dirais homo, ça veut dire à la fois vir, le masculin, et mulier, le féminin. Si je parlais allemand, il y a un mot pour le humain en général, et puis ensuite du masculin et du féminin. Alors là, c'est la langue française, on n'y peut rien, il faut bien parler en français. Alors il faut toujours le repréciser à chaque fois, mais c'est lorsqu'on parle de homme, c'est au sens général du terme.
Bien sûr. Colombe. Paul.
Monsieur Chirpas, vous nous avez dit qu'on ne savait rien de la résurrection, de cette espérance de la résurrection. Mais il y a quand même le Christ du troisième jour qui nous en dit quelque chose. Et je pense que là, on peut avoir quand même une idée de ce que représente la résurrection.
Oui. Sinon, mais c'est quand même très limité. C'est tout de même très limité parce que, alors là, c'est là qu'il nous faudrait comprendre, disons, commenter un autre terme qui est fait dans toute notre tradition, le terme de la conversion, de la métanoïa, dit le grec, c'est-à-dire véritablement de la transformation, à la fois de l'expérience, des mots, etc. Or là, nous ne pouvons avoir que des anticipations ou des bribes. De la même manière, et je prends toujours le parallèle avec l'expérience très ordinaire, mais c'est comme ça notre expérience. À qui n'a pas fait l'expérience de l'amour? Qu'est-ce que vous voulez lui expliquer? Alors vous lui direz, c'est comme ceci, c'est comme cela, bon ben d'accord, pour faire mieux, vous lirez le Cantique des Cantiques, bon, mais si c'est pour lui étranger, que voulez-vous dire? Par contre, si vous avez déjà fait l'expérience de l'amour, vous lisez le Cantique des Cantiques, alors là, enfin je vous espérais que vous aimez le Cantique des Cantiques. Non mais c'est là, vous dites, je crois que c'est pour ça que je voulais tellement insister sur cette pointe extrême de l'expérience. Cette pointe extrême, nous ne pouvons pas en faire abstraction et nous ne pouvons pas franchir cette porte. Simplement parce que nous sommes dans ce monde-ci et pas ailleurs. Et en même temps, il faut toujours, si vous voulez, anticiper de ce qu'il y a de l'autre côté de la porte, mais de l'autre côté de la porte, faisons bien attention, si nous voulons trop nous aventurer et donner des descriptions, nous prenons ce qui se passe dans le ici, et puis nous le rebricolons un peu. Voir toutes les représentations de l'enfer que vous avez dans la peinture européenne, ils sont prodigieux à une époque, alors ils ont une imagination terrible. Avec d'ailleurs cette chose très très étonnante, c'est que les représentations de l'enfer vont toujours mettre des diables qui sont horrifiques et abominables. Or, question simple, si Ève avait vu apparaître un monstre au pied du pommier, est-ce qu'elle serait restée à tailler la bavette avec lui? Mais parce que tout...
Non mais, il se déguisera en luminaire aussi.
Parce que tout simplement celui qu'on appelle le Satan, enfin façon de le nommer, ou le diable, c'est celui qui est le pervers qui manipule la parole. Et c'est pas l'horrible que vous voyez sur les tympans romans, là par exemple, ou dans certains tableaux. Non, c'est celui qui renverse l'ordre des choses.
La séduction.
Alors la séduction,
oui.
On est dans
Le manipulateur.
Le manipulateur.
Oui.
Le manipule.
Le
manipulateur.
Ah, le manipulateur.
Moi, je
voudrais
poser
une question. Il y en a. Merci. Tiens, d'accord. Vous avez prononcé le mot expérience. Ce que je voudrais très vite raconter... C'était une expérience ou des expériences concernant la mort pour moi, mais pas forcément pour vous. La première fois, c'était la chose suivante. C'était en 45, à Dresde, au mois d'août. J'étais seule, une journée d'été magnifique. J'étais seule dans la rue, devant moi, allaient deux dames âgées qui tiraient une charrette. Une s'effondrait dans la rue, et l'autre était complètement perdue. Je me précipitais, je m'agenouillais dans la rue qui était toute vide, je la prenais de la tête dans mes bras et j'envoyais l'autre au bout de la rue où il y avait un médecin. J'étais donc seule avec cette femme que je ne connaissais pas, moi jeune, elle âgée, mais il y avait une paix extraordinaire. Et je la regardais et à un moment donné je sentais, voilà, c'est fini. Et là est arrivé quelque chose d'absolument complètement inattendu, donc je me reprochais après beaucoup. Je levais la tête, je savais, voilà, la vie l'a quittée. Et malgré ça, Je levai lentement la tête, je regardai vers le ciel et je me suis dit « Quelle belle journée, quel beau ciel !» Des années passaient. Nous étions 4 enfants, notre mère était morte quand nous étions tous les 4 tout petites. Et durant 9 mois, aucun de nous, ni mon père, ni aucun de nous les enfants, savait qui était encore en vie. J'ai pu aller à l'ouest, j'ai retrouvé mon père qui le premier jour m'a dit « Viens, il faut que je te montre quelque chose ». Il m'a amené sur un chemin entre 2 champs. Il m'a dit « Depuis 9 mois, par n'importe quel temps, je me tourne tous les soirs vers 4 différentes directions et je prie pour chacun de vous, les 4 ». Et avec une humilité et presque en passant, il ajoutait ceci. Mais chaque fois quand j'avais terminé de prier, je m'étais dit, si des prières et l'amour peuvent sauver mes enfants, ce seront les prières et l'amour de leur mère. Or, ça faisait 15 ans qu'elle était morte. Et là, j'ai compris pour toute ma vie, voilà ce que ça veut dire survivre. Et maintenant, la dernière chose, des années passées, et j'étais auprès de mon père dans une petite chambre de clinique en Forêt-Noire qui lui aussi était en train de mourir. Je tenais sa main, je le regardais. Il y avait une paix extraordinaire, il était clair jusqu'au bout. Il m'a encore dit quelque chose. Et ensuite, je sentais tout à coup qu'il était parti. Et au même moment, arrivait quelque chose dont je ne m'attendais vraiment, vraiment pas. Ma tête se levait comme attirée par un aimant et montait et regardait vers le haut. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et après, je me suis dit, et la main de mon père, pour moi, ce n'était plus mon père, c'était comme un vêtement. Et toujours après, je me suis dit, est-ce que c'est ça, l'âme qui a quitté le corps? Et ce que mon père a dit, ce qui nous survit à nous, c'est notre amour que nous avons essayé de donner et c'est les prières que nous avons faites.
Je n'ai rien à répondre, madame. Je vais passer par moi.
Oui, je suis surpris chez Paul qui dit si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Moi, je ne sais pas, je pensais l'inverse. Si Christ n'est pas ressuscité, les morts ne ressuscitent pas. Pourquoi dit-il si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Corinthiens 15.
On peut faire avec le geste de Paul, je n'ai pas pensé à l'amener, je n'ai pas pensé à l'amener, reprendre, je ne sais pas, il faut que je reprenne le contexte. Là.
C'est le chapitre 15 que vous avez cité.
Notre foi n'a aucune valeur. Non, mais pourquoi dit-il la proposition que moi, je ne sais pas, je disais si le Christ n'est pas ressuscité, les morts ne ressuscitent pas. Paul dit l'inverse. Il dit si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité.
C'est une façon rhétorique, c'est une façon de...
Il semblait que c'était un préalable que les morts ressuscitent pour que le Christ soit ressuscité.
Ben, c'est-à-dire, pour lui, c'est une façon de renverser les choses pour faire comprendre ce qu'il a envie de dire. Mais effectivement, dès le départ, enfin, vous avez raison, c'est plutôt l'inverse. C'est parce que Christ est ressuscité que nous croyons que nous ressusciterons. Et Paul renverse en disant, mais à quoi bon? C'est-à-dire, si vous ne croyez pas que le Christ est ressuscité, alors vos morts ne peuvent pas ressusciter.
Oui, d'accord.
Voilà, il renverse la question.
Autre question. Comme aux enchères. Charles.
Juste une remarque, j'ai beaucoup aimé quand vous avez parlé de « en dépit ». dépit, en dépit d'eux, par rapport à l'espérance. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment au centre de mon ministère, dans l'accompagnement notamment des familles endeuillées. C'est-à-dire qu'il y a quand même la mort. On essaye de ne jamais nier la mort, et c'est un passage obligé, même pour ceux qui ont l'espérance. La mort, le mal, la souffrance, ça existe. Et en dépit d'eux, et en même temps, dans le même temps ou à côté, il y a aussi cette espérance et cette vie, cette résurrection, cette, voilà, après on peut donner d'autres mots, mais je crois que ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas la résurrection toute seule, et il n'y a pas non plus la mort toute seule. Et pour moi, en tout cas, dans ma foi de chrétien, c'est vraiment les deux qui sont toujours côte à côte, la mort et la vie.
C'est ça, si vous voulez, que se situe, sur cette question-là, le centre de notre foi chrétienne. Parce que qu'il y ait une non-morte, qu'il y ait d'abord une destruction complète des morts, vous l'avez dans quantité de représentations. Il y a le monde en bas, là, que vous trouvez dans les poèmes d'Homère, lorsque Ulysse va revisiter ceux qui l'ont précédé, là. Vous pouvez avoir affinant leur pensée. Les Grecs vont à ce moment-là se représenter l'immortalité comme celle du principe intellectuel. C'est au fond la raison et la pensée qui n'est pas mortelle. Bon, mais lorsque nous parlons de résurrection à ce moment-là, ce n'est pas la résurrection de l'âme, c'est la résurrection de la personne et de la chair. D'ailleurs, il vaut mieux employer le mot chair que le mot corps ici. Et alors à ce moment-là, nous sommes, si vous voulez, au paradoxe le plus grand, le plus fort, puisque tout se ligue pour dire que ce truc-là n'a pas de sens. Alors, effectivement, je peux me rattacher à l'espérance et me rattacher à la résurrection, étant donné, même si je ne peux jamais en apporter la moindre preuve. Parce qu'au fond, si vous voulez, c'est relativement plus simple si c'est sur le cadavre d'un autre, d'un tiers. Mais si c'est le cadavre d'un très proche, vous le regardez directement en face, et là où il y avait présence il y a encore quelques heures, maintenant il y a absence totale, je peux parler de résurrection. Mais ça, effectivement, je n'en sais strictement rien. Et à certains égards, je peux me demander si je ne suis pas fou de le croire. Mais, alors à ce moment-là, bon, on peut rediscuter sur ce terme de folie, mais je pense, si vous voulez, que nous avons là ce qui est le point le plus intense qui, effectivement, habite le texte évangélique. Étant entendu que je ne fais pas un commentaire du texte évangélique lui-même, vous l'avez repéré, je vous dirais simplement, puisque alors je ne sais que ce que vous aviez dit dans la présentation, je fais mon métier de philosophe et je ne veux pas oublier que je suis chrétien, mais je tiens toujours à me tenir, je tiens toujours à habiter en quelque sorte le parvis. D'ailleurs, la même chose, je dirais, pour l'université, ce qui m'intéressait, bon, c'est d'enseigner à des étudiants, etc. Bien sûr, et en même temps, il y a on peut dire, l'université hors les murs, la philosophie n'est pas limitée à ceux qui habitent la faculté de philosophie. Je dirais la même chose, ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est le parvis, cette espèce d'entre-deux, où il y a des gens qui sont à l'intérieur, bon, de l'espace de la communauté, il y a un langage qui est connu, qu'il y a des codes, on s'y repère, et puis il y a tous les autres qui ne connaissent pas tous ces codes. Alors c'est au fond ça, c'est là que vous avez, au fond c'est la même chose à bien des égards que celui d'être enseignant d'ailleurs, qui est celui de passeur et d'intermédiaire.
C'est l'interface philosophie-religion.
Oui, mais ça effectivement, alors, mais en même temps il y en a aussi beaucoup d'autres, alors puisque vous me subites lorsque vous étiez à Berthelet, nous nous subissions mutuellement. C'est une façon de parler, j'entends, n'est-ce pas? C'est une façon de parler. Mais rappelez-vous, c'est au fond, faire de la philosophie, c'est cheminer à travers la littérature, à travers les mythes, à travers la psychologie des profondeurs, psychanalyser tout, et aussi bien que texte religieux. Et ce qui m'est arrivé de commenter, par exemple, là, je vous avais un faible pour le livre de Job, ça, quelques-uns le savent. Bon, ce m'est arrivé de commenter certains passages du livre de Job, à l'université, exactement comme je commenterais Platon, ou bien Sophocle, ou Kant, je ne sais pas qui. Non, comme on prend les textes et effectivement on lit pour écouter ce qu'ils ont à nous dire.
Oui, moi j'aimerais juste témoigner pour rejoindre les personnes qui ont parlé tout à l'heure que quand on a l'expérience d'une mort d'un proche aimant, et toutes les personnes qui sont là en ont fait l'expérience, j'en suis sûre, on ne peut s'empêcher de rechercher les écrits des gens qui ont précédé, et notamment Elisabeth Kubler-Ross, qui témoigne d'une vie entière auprès des mourants et qui explique très clairement dans ses écrits les expériences différentes qu'elle a faites de retour, de contact, de dialogue, de messages et de multiples réalités de ce sens.
Question ?
J'avais lu un poème d'une Canadienne qui s'appelle, un ensemble de poèmes qui s'appelle La mort amoureuse. Alors, c'est très choquant comme titre. Et elle disait, la vie c'est le seul voyage qui tue le voyageur. C'est humoristique ou pas? Et je trouve que les religions en général sont assez frileux avec la mort. J'ai lu un roman récent, là, je n'ai pas terminé, mais les Thanatonautes, c'est-à-dire les gens qui vont aux confins de la mort. C'est de la fiction, mais vraiment... C'est très très intéressant, c'est très surprenant.
On vient parler des gens qui ont fait des voyages aux confins de la mort, et c'est le seul voyage qui tue le voyageur.
Oui.
Voilà. Autrement,
il n'y a pas d'obligation. Comme il vous plaira.
Une dernière question.